Le meilleur de Séances Radio est maintenant sur We Love Cinéma.
Aujourd'hui, le filmographe est consacré à la carrière de Margaret Sullavan. Sur Séances Radio, par BNP Paribas.
Bonjour Antoine Cyr, bonjour à tous. Aujourd'hui, le filmographe est consacré à une comédienne pleine de charme et de sensibilité, à l'écran en tout cas si l'on en croit certaines sources qui, pour ce qui est de sa véritable personnalité, en dressent parfois un tableau moins angélique. Cette comédienne, née en Virginie le 16 mai 1909, c'est Margaret Sullavan.
Oui, Margaret Sullavan, une personne énigmatique qui cultivait avec Hollywood une distance dont il était difficile de dire si elle résultait d'une émouvante timidité ou au contraire d'une certaine suffisance. En tout cas, lorsqu'elle considérait sa journée de travail comme terminée, elle pouvait frotter son maquillage ou s'asseoir dans la poussière pour salir sa robe, de sorte que le tournage devait s'interrompre jusqu'au lendemain. Mais son petit visage, un peu buté, n'avait pas son pareil pour exprimer les fragilités, les refoulements, les douleurs et les passions d'une femme. Ses expressions à l'écran n'étaient jamais très loin de sa vérité intérieure. Elle fut l'actrice numéro 1 de Franck Borzégui pendant sa période de cinéma parlant et sa subtilité permit à Lubitsch de réaliser avec elle l'une des plus touchantes comédies romantiques jamais tournées, à savoir The Shop Around the Corner, qui est vraiment, pour ceux qui ne l'ont pas vu, un des quelques films qu'il faut absolument voir avant de quitter ce monde. Quant à Margaret Sullavan, elle quitta tôt le grand écran pour le théâtre, mais elle mourut à 50 ans, ne supportant d'ailleurs plus la maladie qui risquait de l'empêcher de pratiquer son métier.
Margaret Sullavan fit ses débuts à Broadway dès l'âge de 17 ans sous le pseudonyme de Miss Bock, son vrai nom étant Margaret Brooke. On l'y retrouvera très régulièrement jusqu'en 1933.
En 1933, Margaret Sullavan se retrouve en haut de l'affiche dès son premier film, Une nuit seulement, de 1933, de John Hemsthal. Elle y joue un rôle refusé par Claudette Colbert et Irène Dunne. Ce film, injustement oublié, est une transposition en Amérique du Lettre d'une inconnue de Stefan Zweig, qui sera porté à l'écran dans son décor viennois en 1948 par Max Ophüls.
Le livre de Stefan Zweig était paru 6 ans plus tôt. La musique du film fut co-signée par le russe Konstantin Bakalennikov et par l'américain Walter Donaldson, tous deux absents du générique.
Seulement s'ouvre par une formidable évocation de la crise de 1929. La lettre de l'inconnu parvient à un agent de change qui est joué par John Bowles, qui est sur le point de se suicider, et oui, on est en crise. L'homme y lit la vie de souffrance de cette femme qu'il avait complètement oubliée et à qui il a fait un enfant un soir de bal en 1917. Margaret Sullavan démontre immédiatement son talent pour incarner les belles jeunes femmes timides aux douleurs silencieuses.
Et 2 ans avant Une nuit seulement, John Bowles avait été l'ami de Monsieur et Madame Frankenstein dans Frankenstein, le film de James Whale.
Margaret Sullavan était arrivée au cinéma presque à reculons. Elle avait refusé des offres de la Columbia et de la Paramount et n'avait accepté un contrat avec la Universal que moyennant des clauses lui permettant de choisir ses films et de retourner régulièrement jouer au théâtre.
Et c'est ce qu'elle fit d'ailleurs, même après avoir arrêté le cinéma.
Dès 1934, Franck Borzégui s'empare de ses qualités romantiques dans « Et demain », qui raconte la dure vie d'un jeune couple désargenté, le temps d'une grossesse dans l'Allemagne agitée des années 20.
Musique d'Arthur Kay.
La fragilité pudique de Margaret Sullavan fait merveille dans ce film. Elle incarne un personnage apparemment effrayé par chaque étape de la vie, mais qui ne perd jamais ses qualités de cœur. Elle est particulièrement touchante lorsque le couple sort de chez le gynécologue, ayant appris l'arrivée de cet enfant qu'ils ne savent pas comment nourrir. Ils vivent de doux instants d'amour, mais sont sans cesse rattrapés par la réalité. Il y a une scène absolument magnifique où le mari voudrait annoncer à sa femme qu'un travail et un logement l'attendent à Berlin. Il la cherche en vain dans leur logis, puis la trouve, tournant sur les chevaux de bois d'un manège où elle s'était réfugiée pour oublier sa honte. Elle explique en pleurant à son mari qu'elle était affamée et qu'elle n'a pu s'empêcher de manger leurs deux parts de nourriture. Il lui apprend alors la bonne nouvelle et il remonte sur le carrousel pour un moment d'enfance jubilatoire. À la fin du film, les deux jeunes gens puisent le courage d'affronter l'avenir dans le spectacle attendrissant de l'enfant qui vient de naître. « Nous avons créé la vie, alors pourquoi avoir peur ?» dit Margaret Sullavan.
Et demain est le remake d'un film allemand tourné l'année précédente. C'est Margaret Sullavan qui insista pour que Frank Borzeghi en soit le réalisateur à la place de James Whale, encore lui, d'abord envisagé par Universal.
Et demain est un grand succès, mais la star se taille une réputation d'actrice difficile pendant le tournage de La Bonne Fée, sorti en 1935, dont elle épousera pourtant le réalisateur William Wyler.
3 mois avant la sortie du film, un film dont la musique fut composée une fois de plus par Arthur Kay.
La Bonne Fée, c'est une comédie romantique sur un scénario de Preston Sturges avec Herbert Marshall. Certains jours, Wyler se plaint auprès du chef opérateur Norbert Brodin du fait que Margaret Sullavan passe mal à l'image. « Normal, répond Brodin, vous vous êtes querellé. » Désireux d'apaiser leur climat de travail, Wyler invite alors son actrice à dîner et tombe amoureux d'elle. Auparavant, elle a été brièvement la femme d'Henry Fonda. Après son divorce d'avec Wyler, elle épouse l'agent d'artiste Leland Hayward, dont elle aura 3 enfants et qui lui négocie un contrat pour 6 films avec la MGM.
Elle se mariera une 4e et dernière fois en 1950 à l'âge de 41 ans.
Eric, Gottfried, Otto, 3 comrades, to us.
Give a man beside him always. And you'll have a friend to guide him beside him always.
Margaret Sullavan retrouve Borzeghi en 1938 dans 3 camarades sur un scénario co-signé de Francis Scott Fitzgerald, mais entièrement réécrit par Joseph Mankiewicz d'après Eric Maria Remarque.
Et sur une martiale musique qu'on entend et quelques chansons aussi de Franz Waxman.
Dans ce film qui se déroule à nouveau dans une Allemagne secouée par la montée d'un nazisme qui n'est pas nommé, elle est entourée de 3 grandes vedettes masculines du moment, Franz Hotton, Robert Young et Robert Taylor. Elle incarne l'épouse de ce dernier, qui partage avec lui d'intenses moments de bonheur, mais sera emportée par la tuberculose. La scène où on voit Margaret Sullavan qui meurt à son balcon alors que tout est enneigé autour d'elle est un grand moment de romantisme tragique. En expirant, elle murmure à son mari « C'est bien que je meure, chérie, ce n'est pas difficile, je suis si pleine d'amour. »
Pour ce beau rôle, Margaret Sullavan recevra son unique nomination à l'Oscar de la meilleure comédienne. Et cette année-là, c'est Bette Davis qui est repartie avec la statuette pour L'Insoumise, un film d'un certain William Wyler. Avec Margaret Sullavan à l'affiche de notre filmographe d'aujourd'hui. Nous sommes donc en 1934. Elle vient d'achever le tournage de « Et demain ».
La même année, Margaret Sullavan tourne également avec Borzeghi « L'ensorceleuse » où elle est la fragile belle-sœur de John Crawford et l'épouse de Robert Young. Ces deux-là sont attirés l'un vers l'autre. Après avoir longtemps ignoré ce flirt, la jeune femme que joue Margaret Sullavan, désespérée, se jette dans une maison en flammes. Elle est sauvée de justesse par sa rivale. Pour le New York Times, Margaret Sullavan réalise la meilleure performance de toute la distribution, bien que son temps de présence à l'écran soit plus faible que celui de Joan Crawford. Cette dernière s'était engagée par bravade dans ce film, aux côtés d'une actrice dont elle connaissait la haute réputation. Elle parvient à limiter les dégâts, mais quand même de justesse.
Adapté d'une pièce jouée à Broadway 4 ans plus tôt, le scénario de L'Ensorceleuse fut lui aussi écrit par Mankiewicz, bien que son nom n'apparaisse pas au générique.
James Stewart fut le partenaire préféré de Margaret Sullavan. Elle l'a connu à Princeton alors qu'il était régisseur dans une troupe de jeunes comédiens. Stewart, de son côté, éprouvait une véritable passion pour Margaret Sullavan. Une légende tenace voudrait même qu'il soit resté célibataire jusqu'à 40 ans par amour pour elle. Il se maria en 1949 avec Gloria Hattrick MacLean, une femme qu'il ne quitta jamais et qui justement ressemblait à Margaret Sullavan. Elle l'impose à ses côtés dans Épreuve d'Edward Griffith en 1936. Le film démarre par une scène qui aurait plutôt sa place chez Borzegui. Margaret Sullavan doit prendre le train pour aller finir ses études et puis in extremis, elle renonce pour rester avec l'homme qu'elle aime, James Stewart. Et là, qu'est-ce qu'il fait James Stewart? Eh bien, il remonte dans le train qui est déjà lancé pour récupérer coûte que coûte les bagages que sa bien-aimée avait oublié. Plus tard, les deux jeunes gens se marient, leur tendresse semble d'autant plus éternelle que l'alchimie entre les deux comédiens est évidente, même si la critique va être un peu plus sévère avec Stewart. Mais le métier de journaliste qu'exerce dans le film James Stewart est un ami. Toujours se méfier des amis, qui est incarné par Rémy Land, et cet ami convoite la jeune femme, donc tout ça va avoir raison de leur couple. Lorsqu'ils se retrouvent quelques années, ils s'avouent qu'ils se sont toujours aimés, mais il est bien tard. L'homme est soigné en sanatorium pour une maladie mortelle. Le mélodrame s'achève par le baiser des deux amoureux désespérés.
Et comme la bonne fée, sortie l'année précédente, le scénario de Épreuve fut en partie écrit par Preston Sturges, qui deviendra lui-même réalisateur 4 ans plus tard.
Les deux comédiens se retrouvent dans L'Ange impur de Henry C. Potter en 1938, remake d'un film de 28 avec Nancy Carroll et Gary Cooper. Initialement destiné à Jean Harlow, ce rôle donne à Margaret Sullavan l'occasion de s'éloigner de ses personnages habituels de petite jeune femme timide. Elle incarne une meneuse de revue de Broadway qui vit la fin d'une relation avec un impresario cynique que joue Walter Pigeon. Un soldat plein de bons sentiments que joue James Stewart l'a fait passer pour sa compagne afin d'impressionner ses camarades de régiment. Mais petit à petit, la mascarade devient réalité car elle se sent revivre aux côtés du jeune homme. Les deux acteurs partagent de belles scènes de comédie romantique, mais le film s'achève à nouveau en mélodrame car le soldat ne reviendra pas de la guerre. Il faut attendre 2 ans pour que Margaret Sullavan et James Stewart tournent le seul de leurs 4 films ayant une issue heureuse, Rendez-vous, qui reste à ce jour probablement la plus belle comédie romantique de toute l'histoire du cinéma.
Et qui est également connue en France sous son titre original The Shop Around the Corner. La musique est de Werner Herrmann.
The Shop Around the Corner, Margaret Sullavan incarne une jeune chômeuse timide qui se fait recruter dans une boutique de maroquinerie. Elle en a charmé le patron, que joue Frank Morgan, en vendant comme boîte à bonbons un objet que personne n'achetait lorsqu'il était proposé comme boîte à cigarettes. Elle a des relations difficiles avec un ambitieux vendeur, qui est joué par James Stewart, mais il s'avère qu'ils correspondent tous les deux, sans le savoir, via une boîte de courrier du cœur anonyme. Le jour où ils se donnent rendez-vous physiquement pour la première fois dans un restaurant, Stewart découvre, le premier, que la femme qui l'attend, comme convenu, avec un volume d'Anna Karénine, est sa collègue vendeuse. Du coup, il n'ose pas tomber le masque et l'incompréhension, évidemment, ne va faire que grandir entre ces deux cœurs solitaires débordant de tendresse inemployée. James Stewart est souvent plus touchant que ses partenaires féminines, mais pas ici, tant Margaret Sullavan est charmante, pudique et inventive. Stewart, malgré ou à cause de son amitié pour elle, fut troublé au point de devoir s'y reprendre 48 fois pour jouer correctement la dispute dans le restaurant où il lui propose de montrer ses mollets pour lui prouver qu'il n'est pas bancal.
Et malgré ses nombreuses qualités, Rendez-vous ne reçut aucun Oscar ni aucune nomination. En revanche, il inspira plusieurs remakes, dont 9 ans plus tard, la comédie musicale de Robert Z. Leonard, Amour post-restante avec Judy Garland et Evan Johnson. Et puis beaucoup plus tard, en 1998, Vous avez un message de Nora Ephron avec Meg Ryan et Tom Hanks. Sur Séance Radio, un filmographe qu'Antoine Cyr a décidé de consacrer à Margaret Sullavan, que l'on retrouve après Rendez-vous, toujours en 1940 et toujours en compagnie de James Stewart pour la 4e et dernière fois. Le film s'intitule La tempête qui tue, musique d'Edward Kane.
La tempête qui tue de Frank Borzeghi se déroule en Allemagne et le sujet du nazisme est cette fois abordé dans ce film de manière frontale. Margaret Sullavan incarne la victime type de l'idéologie nazie. C'est une jeune femme pleine de charme et de douceur qui pourrait d'ailleurs être la vendeuse qu'on a vue dans Rendez-vous et dont la vie est menacée par des circonstances aussi terrifiantes qu'absurdes. Elle est fiancée à un étudiant, Robert Jung, qui s'engage dans les rangs nazis, mais là, elle va le quitter pour un autre, James Stewart, avec lequel elle partage le refus de l'embrigadement et du racisme. Bientôt, son père, qui est professeur d'université, incarné par Frank Morgan, qualifié de non-arien, est emprisonné dans un camp de concentration. Il y meurt. Voulant quitter l'Allemagne, sa fille est interceptée parce qu'elle emportait avec elle des écrits scientifiques de son père. Mais là, son compagnon, que joue James Stewart, va rentrer d'Autriche pour l'aider à s'enfuir dans ce pays qui n'a pas encore été envahi par les Allemands. Ils partent à ski dans les montagnes et sont pris en chasse par une patrouille que mène à contre-cœur d'ailleurs l'ancien fiancé de la jeune femme. Les soldats tirent, la pauvre Margaret Sullavan est abattue au passage de la frontière. James Stewart la porte en lieu sûr, mais elle expire dans ses bras. Si Margaret Sullavan meurt à nouveau dans un paysage de neige, sa fin entre ces montagnes aussi écrasante que les convulsions de l'histoire inspire cette fois plus de révolte que de mélancolie.
On notera que Frank Morgan, inoubliable dans Le Magicien d'Oz des années précédentes, est ici le père de Margaret Sullavan, alors qu'il était son patron dans Rendez-vous. Et dans La tempête qui tue, on reconnaît aussi un jeune débutant de 21 ans, Robert Stack, futur Elliot Ness des Incorruptibles. Il joue le demi-frère de Margaret Sullavan, qui lui aussi va s'engager du mauvais côté.
Dans Ainsi finit notre nuit de John Cromwell en 1941, l'un des premiers films entièrement consacrés à la persécution des juifs par les nazis, Margaret Sullavan est une réfugiée qui tombe amoureuse d'un de ses compagnons d'infortune incarné par Glenn Ford. La même année, elle joue dans un remake de Backstreet réalisé par Robert Stevenson. Pour incarner l'homme marié qui lui impose une liaison secrète pendant de longues années, elle a exigé la présence de Charles Boyer, acceptant que son nom figure après le sien au générique.
Cette version, également intitulée Backstreet, avait d'abord été proposée à Alfred Hitchcock, qui s'y était intéressé un temps, proposant même le rôle principal à son interprète fétiche de l'époque, John Fontaine, qu'il venait de faire tourner dans Rebecca. Finalement, il préféra la retrouver dans Soupçon, qui sortira 9 mois après Backstreet.
Margaret Sullivan réalise sa dernière prestation importante au cinéma en 1943 dans Cry Havoc de Richard Thorpe, un film MGM consacré à un groupe d'infirmières coincées dans le réduit de Bataan pendant la guerre du Pacifique.
Une adaptation d'une pièce jouée à Broadway sans beaucoup de succès, puisque interrompue après 11 représentations.
Margaret Sullivan joue une femme lieutenant aux méthodes très directives atteinte de malaria. Elle doit s'appuyer sur un groupe de civils sans formation médicale, dont l'une, que joue Anne Southern, convoite un homme avec qui elle est secrètement mariée. Dans ce film de guerre, à la distribution entièrement féminine, Margaret Sullivan semble moins à l'aise que dans les films sentimentaux de Borzegui ou de Lubitsch. Et elle subit la concurrence d'actrices au charme qu'on pourrait qualifier de plus rugueux, comme Anne Southern ou John Blondell. Contrairement aux Anges de Miséricorde, réalisés sur le même thème par la Paramount, les infirmières ne sont pas exfiltrées et doivent se rendre aux Japonais avec le reste des soldats américains.
Et dans ce film, si vous avez l'œil, vous découvrirez un débutant de 26 ans, Robert Mitchum, qui après le crash de son avion a tout juste le temps de pousser un dernier soupir dans les bras d'une autre débutante de 23 ans, Ella Raines.
Oui, c'est très spectaculaire parce que dans ce film, il n'y a pratiquement pas d'hommes. C'est vraiment un film où on voit essentiellement des femmes. Et donc, à un moment, vous voyez un homme dont vous voyez bien qu'il ne va pas durer très très longtemps. Et quand même, c'est Mitchum. Donc ça fait quelque chose.
C'est son quatrième film, peut-être, apparition hein, au cinéma.
Imposant des exigences qu'aucun studio n'était prêt à suivre, Margaret Sullivan ne fit qu'un film après-guerre, La flamme qui s'éteint, mélodrame de Rudolf Maté en 1950.
Aux côtés d'une jeune flamme qui ne demandait qu'à s'allumer, Natalie Wood, 12 ans.
Elle se consacra avec succès au théâtre, mais mourut à seulement 50 ans d'une surdose de barbiturique après avoir caché pendant 15 ans un terrible secret. Une maladie incurable la rendait pratiquement sourde et à l'époque de sa mort, elle ne pouvait plus jouer qu'en lisant sur les lèvres de ses partenaires.
Et elle joua sa dernière pièce en 1955, 5 ans avant sa mort, en compagnie du Français Claude Dauphin. Merci Antoine.
Le Filmographe vous a été présenté par Antoine Cyr et Laurent Bourdon sur Séance Radio par BNP Paribas.
Retrouvez l'ensemble des contenus Séance Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.